Chapitre 9. Comment se faire dévorer par un crocodile. L'aube était froide quand je me levai, car le soleil effleurait à peine les crêtes escarpées. Le grondement permanent de la rivière me rappelait à chaque seconde ce que nous avions encore à accomplir. Je pensais aux aurores que j'avais vécues en traversant l'Atlantique à la voile. Elles, au moins, permettaient de prévoir l'état de la mer. Ici, dans la montagne, le ciel n'offrait aucun indice des tempêtes de nos rivières. Comme à chaque départ, je n'arrivais pas à chasser mes appréhensions.
« Si nous partions à pied ?» me demanda Michael.
Mi-sérieux, mi-plaisantant, je serais volontiers tombé d'accord avec lui, mais nos engins nous faisaient signe et nous avions cette route d'écume à conquérir, nous l'avions voulu. Nous pliâmes en vitesse notre tente et grignotâmes un reste de pain avant le départ. Nous étions poussés par la curiosité de découvrir comment la rivière allait réussir à se frayer un chemin à travers les montagnes. Chaque boucle nous avait laissé jusqu'ici sur notre étonnement, révélant chaque fois de nouvelles barrières de plus en plus massives, et pourtant, nous n'avions pas encore rencontré deux cataractes. Dès notre premier contact avec l'eau, la rivière redevint notre unique préoccupation. À nouveau, il fallait lutter pour garder le cap vers l'amont, calculer la vitesse du courant, la taille des vagues qui venaient vers nous, la direction du vent. L'interlude au village Magar était déjà loin. Il y avait nous d'un côté, et de l'autre, une rivière déchaînée, aux cours inexplorés, un monde à conquérir. Je me demandais si les premiers navigateurs et explorateurs avaient connu cette impression qu'ils ne lâchaient jamais. Que chaque mètre parcouru entraînait l'accroissement des périls du retour. Autant de rapides vaincus, autant de rapides à redescendre. Tout au long de notre voyage, nous avions souffert de ne pas pouvoir appuyer sur des précédents encouragements. Au cours de mes premières expéditions dans l'Himalaya, quand j'étais saisi par la peur ou par le doute, le souvenir des expériences de mes prédécesseurs me réconfortait. Mais là, nous étions livrés à nous-mêmes. Il fallait décider à chaque rapide si nous risquions ou non le coup, tout en sachant que la moindre erreur pouvait nous précipiter, sans défense, dans les flots tumultueux. Tout cela ne nous laissait que très peu de temps pour admirer la beauté de la rivière qui révélait sans cesse une fabuleuse féerie aquatique. À un moment donné, nous nous trouvâmes entourés d'énormes icebergs gris, des blocs de granit battus par une mer furieuse. À force de louvoyer parmi eux, nous nous retrouvâmes dangereusement près de la rive. Notre vitesse et notre façon de prendre des virages me rappelaient le ski, mais notre slalom géant ne tolérait pas la moindre erreur. Le froid était mordant. Nous étions trempés par la fine écume soulevée par nos hélices ascensionnelles et chassés par une petite brise qui ne tarda pas à fraîchir. Nous avions maintenant atteint la face nord de la chaîne du Mahabraha. Nous espérions, à chaque minute, déboucher sur le large vallée où errait le Kaligandaki à la recherche de la brèche que nous venions de passer. En survolant cette région avec Émile Wick, nous avions remarqué que cette portion de la rivière mettrait provisoirement fin à nos difficultés. Elle était dénuée de très gros rapides jusqu'au moment où elle obliquait vers le nord en direction des grandes cataractes au pied des monts enneigés. Nous avions de l'essence pour 5 heures, mais il fallait compter au moins 3 heures pour le retour. Nous ne pouvions donc pas compter aller beaucoup plus loin que la limite nord de la chaîne, là où la rivière commence à s'assagir. Si nous avions décidé de poursuivre plus en avant, nous aurions dû envoyer une réserve d'essence par porteur. L'opération aurait demandé une semaine et nous aurait conduit sur un territoire sans pittoresque et bien au-delà de notre permis temporaire. Notre objectif était donc simplement de traverser la chaîne des monts Mahabraha qui, dans la partie centrale du Népal où nous étions, offrait sa largeur maximum. Michael était en tête quand, une heure après avoir quitté notre village, un vent violent se leva. Il nous lançait de l'écume dans les yeux et nous glaçait jusqu'aux os. Nous avions de plus en plus de mal à diriger nos engins et perdions de la vitesse. Chaque fois que nous le pouvions, nous serrions de près les berges rocheuses de la rivière pour essayer de nous mettre à l'abri des bourrasques qui s'engouffraient dans la gorge en hurlant, comme un gigantesque courant d'air. Ralenti par le vent, je tombais sans cesse derrière la bosse et dus me réfugier dans une petite crique de sable pour régler mon carburateur. Les rives abruptes étaient couvertes de pins. Devant nous, au-dessus d'une montagne, brillait un petit coin de ciel bleu.
Pour atteindre la porte nord des monts Mahabra, il ne nous restait que quelques violents rapides à franchir. Bientôt, nous débouchâmes dans le Népal inférieur, où la rivière se mit à serpenter paresseusement vers l'ouest. Nous avions enfin franchi la brèche d'un bout à l'autre. Notre intention était de parcourir une vingtaine de kilomètres sur les premiers méandres, mais la tempête était telle que nous avancions à peine, même en poussant à fond les moteurs. J'avais maintenant rattrapé Michael qui essayait pour la troisième fois de remonter un rapide encaissé entre deux rochers. Le vent l'empêchait de prendre l'élan nécessaire et le frottement du courant sur le bas de la jupe de mon aéroglisseur contribuait à le ralentir. J'essayais à mon tour de franchir le rapide et dut aussi m'incliner devant la puissance du vent. Nous avions deux solutions, attendre sur une plage la fin de la tourmente ou abandonner et faire demi-tour. J'optais pour la deuxième. Il était impossible de savoir quand le vent se déciderait à tomber, et comme nous avions réussi à traverser la chaîne, il était plus sage d'arrêter là notre prospection du Kalingandaki inférieur, car il nous restait encore 60 km de rapide à négocier avant d'atteindre notre camp de base. Plus tard, quand nous aurions l'autorisation d'aller plus au nord, nous pourrions toujours rejoindre la rivière à l'endroit où elle est coupée par la route qui descend de Pakra à 80 km du point que nous venions d'atteindre. Nous fîmes donc demi-tour, heureux d'avoir ouvert un nouveau passage vers le cœur du Népal. Nous nous arrêtâmes à la première plage ensoleillée pour sécher nos vêtements et nous réchauffer un peu. Jusque-là, tout s'était bien passé, si bien que nous avions tendance à surestimer nos petits engins et notre adresse à les conduire. La culbute qui avait failli me coûter la vie à Tribeni me semblait loin et je commençais à croire que mon anxiété n'avait aucune raison d'être. Confiance exagérée ou pure malchance, toujours est-il que notre retour allait nous rappeler les risques que comportait notre expédition. Quand nous fûmes un peu reposés, nous nous remîmes en route. Le vent violent, que nous avions maintenant dans le dos, gênait nos manœuvres. Nous étions sans cesse déportés et nous allions beaucoup plus vite que nous ne le désirions. Concentré sur la conduite de mon engin, je me dirigeais vers un rapide qui décrivait un grand arc d'écume entre deux murs de rochers, quand Michael me doubla à une vitesse folle. Comme un aéroglisseur flotte au-dessus de l'eau sur son coussin d'air, il est difficile de le retenir en descente. Michael avait perdu le contrôle de son engin et se précipita dans le rapide, fit quelques bonds désordonnés sur les vagues et fonça droit sur la paroi rocheuse. Je vis son engin percuter avec fracas l'obstacle dans un jaillissement d'écume, se cabrer à la verticale avant de faire un grand bond en arrière et de retomber à plat sur l'eau. Michael portait son gilet de sauvetage, mais n'avait pas de casque. Je redoutais le pire, voyant son aéroglisseur emporté par le courant. Le siège du pilote était vide. En approchant de l'endroit de l'accident, je vis Michael désarçonné par le choc, à moitié dans l'eau, une jambe accrochée au bord de son engin. Il avait réussi à se cramponner et, malgré les cabrioles que faisait le dinghy sur le rapide déchaîné, il put s'échouer sur une plage de sable quelques centaines de mètres plus bas. Je le retrouvais encore tout étourdi, incapable de penser à autre chose qu'au désastre auquel il venait d'échapper. Il devait à un véritable miracle d'être encore vivant. Normalement, il aurait dû s'assommer sur le rocher. Le vent lui avait fait prendre trop de vitesse et Michael avait été incapable de contrôler sa course folle. Par chance, les dégâts étaient minimes. Et dès qu'ils furent réparés, nous reprîmes la descente de courbe en courbe, de rapide en rapide. Le spectacle que nous offraient les rives nous faisait comprendre pourquoi la chaîne des monts Mahabraha est une des régions les plus sauvages et les moins habitées du Népal central. Ces forêts tropicales et ces parois verticales se sont alliées pour décourager les colons et même les paysans népalais les plus endurcis qui n'hésitent pas à aller vivre sur les crêtes les plus escarpées jusqu'à une altitude de 4000 mètres. Vers le milieu du parcours, nous nous arrêtâmes sur une grande plage où se trouvaient trois pirogues creusées dans les troncs d'arbres et qui servaient à passer la rivière assez calme en ce lieu. Nous apprîmes que les hommes qui se servaient étaient des bobts. Un homme souriant, accompagné de ses trois filles et qui venait d'arriver de l'autre rive, nous apprit qu'il y avait un village gurung en haut de la falaise. Les gurungs du Népal occidental vivent en général en haute altitude. Comme les rails, les limbous et les magars, ils sont d'origine tibétaine et font des très bons soldats. Mais à la différence des magars, qui ont tendance à adopter les coutumes des tribus voisines, Les Gurung restent fidèles à leur propre culture, ou plutôt à celle qu'ils ont développée à partir de la culture tibétaine. Leur religion est proche du lamaïsme, mais inclut certaines pratiques magiques d'origine ancienne. Les Gurung sont facilement reconnaissables à leur visage rond et bien rempli. Tout en ayant l'aspect de Mongols, ils n'ont pas les yeux très bridés ni la face aplatie des rails. Il est encore plus facile d'identifier les femmes Gurung couvertes d'or et de pierres semi-précieuses. Elles ont l'air de bijouterie ambulante. Il semble que les Gurung investissent toutes les richesses sur leurs femmes et la plupart de ces dames ont au doigt autant de bagues qu'elles peuvent en porter, de grands disques accrochés au lobe de l'oreille et d'autres plus petits qui bordent la partie supérieure de l'aile du nez où elles portent en plus un ou parfois deux grands anneaux, sans parler de leurs innombrables colliers et bracelets. Pour rehausser le tout, elles aiment se parer de tissus rouges. Il n'était malheureusement pas question pour nous d'étudier en détail la coutume de toutes les tribus que nous rencontrions. Ce qui nous intéressait était la distribution riveraine des diverses tribus. Le grand village Gurung, qui nous surplombait, devait compter parmi les plus bas de cette tribu, qui vit de préférence en haute montagne. Quelques-unes des coutumes Gurung sont très étranges. En particulier, la cérémonie qui a lieu lorsqu'un enfant mâle atteint 5 ans et pour la première fois se fait couper les cheveux. À cette occasion, il est attaché à un piquet avec une corde passée autour du cou, comme s'il était un cheval. On lui coupe alors les cheveux, après quoi sa mère l'appelle et il doit répondre par des miaulements de chat. Ce rite curieux n'a jamais pu être expliqué. L'une des caractéristiques des Gurung est leur joie de vivre. Cette constante bonne humeur provient sans doute du fait des relations très libres qui existent entre garçons et filles et de leur éducation très libérale. Les adolescents, dès la puberté, ont une vie sociale très sympathique. Groupés par sexe, ils vivent dans des clubs pourvus de dortoirs. Fréquemment, les clubs de garçons rendent visite aux clubs de filles. Les sorties mixtes sont fréquentes et c'est ensemble aussi qu'ils travaillent dans les champs. Ce sont les amoureux eux-mêmes qui décident de leur mariage. Toutes les jeunes filles du club de l'épousé reçoivent des cadeaux du jeune marié. Chaque club a un père ou une mère qui prépare la nourriture en surveillant du coin de l'œil les jeunes qui vivent en bande joyeuse. Cette coutume libérale vaudrait la peine d'être étudiée de près pour servir d'exemple à d'autres peuples et explique sans doute pourquoi les Gurung sont les individus les plus sociables et les plus joyeux des montagnes du Népal. Tandis que nous bavardions sur la plage avec le père des trois jeunes beautés, un homme nous proposa d'aller remplir nos gourdes avec l'eau d'un torrent qui descendait en un coteau abrupt sur l'autre rive. Cette eau fut un délice pour nos palais habitués à l'eau limoneuse de la rivière. Nous la savourions comme un vin de cru exceptionnel. Pendant quelques jours, nous l'économisâmes pour pouvoir nous en délecter de temps en temps. Nous avions tellement soif que nous discutions souvent des mérites de toutes les eaux que nous avions trouvées. Les privations sont parfois la cause d'une infinité de petits plaisirs qu'on ne peut pas connaître dans des circonstances normales d'une vie facile. L'homme civilisé ne se doute pas de toutes les joies auxquelles il ne goûtera jamais. Ce n'est pas pour rien qu'Épicure vantait les vertus de l'ascétisme comme un moyen d'accroître l'intensité du plaisir. Nous quittâmes les Gurung et le passeur pour découvrir bientôt que tout n'est pas bonheur sur un coussin d'air. Pour commencer, le fond de mon aéroglisseur se détacha tout à coup. Les vibrations de nos petits moteurs à deux temps avaient fini par rompre les écrous. Comme pour toutes nos autres pannes, le principe de l'aéroglisseur n'y était pour rien, ni la conception particulière de nos engins. La plupart de nos désastres venaient de ces vibrations dues aux deux moteurs. Michael m'aida à dresser l'aéroglisseur contre un rocher et je me mis au travail. J'avais beau être entraîné à rôtir au soleil en plein midi sur le sable, je n'arrivais pas à m'y habituer. En une heure de travail manuel par une chaleur tropicale, on peut perdre par la transpiration jusqu'à 25% du volume de son sang, plus de 2 litres de sueur par heure. J'eus plusieurs fois des vertiges, symptômes précurseurs de l'insolation, qui n'est rien d'autre qu'une déshydratation. Je travaillais frénétiquement, proche de la panique, obsédé par l'idée que si je n'arrivais pas à réparer, je devrais abandonner mon engin et revenir à pied. Il était loin le mécanicien John Trulock, qui était capable de nous bricoler n'importe quoi, loin aussi nos cours accélérés de mécanique. Que de temps j'avais perdu à l'école à apprendre le latin, au lieu d'aller voir ce qui se passait sous le capot d'une voiture. À cet égard, l'éducation de Michael était aussi défectueuse que la mienne. Mais il me battait par son pessimisme.
« Nous devrions, dit-il, faire une petite prière pour que nos carburateurs ne passent pas. »
Les carburateurs, pour nous, étaient à bout. Leur seul nom nous faisait frémir quand nous étions éloignés de nos pièces détachées.
« Il paraît qu'ils ont des pointeaux dans le ventre, » me dit Michael. « Tu t'imagines des pointeaux ?»
Il est heureusement plus facile de remettre en place le fond d'un aéroglisseur que l'autopsier le carburateur. Nous pûmes bientôt nous remettre en route. J'étais encore en train de m'émerveiller sur mes talents de mécanicien quand, un kilomètre plus loin, le fond se déroba de nouveau sous moi, mais cette fois à moins de 300 mètres du rapide infernal qui nous avait obligés à porter l'engin de Michael par des rochers. Le plus dangereux de tous ceux que nous connaissions. Pas de fond, pas de coussin d'air. Je dérivais au fil de l'eau, le cœur battant, en m'aidant de la pagaie et du moteur de poussée, j'essayais de vaincre le courant et de gagner la rive. Je sais maintenant qu'il existe des suées qui n'ont rien à voir avec la chaleur. Centimètre par centimètre, je me traînais vers le rivage. C'était un match au finish. Est-ce que j'y arriverais avant de culbuter dans le rapide? Je gagnais à une seconde près. À ce moment, Michael passa en trombe à ma hauteur. Des bras, je lui fis signe de venir se poser sur la plage à côté de moi pour m'aider. Il avait vu le rapide et mon geste qui l'attirait vers la gauche. Mais, persuadé que je lui faisais signe d'aborder le rapide en serrant à gauche, il y alla joyeusement. Hélas, c'était le côté à nu à ne surtout pas prendre à cause d'une série de 12 paliers de 1,20 m à 1,50 m chacun. L'eau y cascadait en bouillonnant de rocher en rocher, et c'était vers ce redoutable escalier que, confiant, Michael fonçait croyant suivre mes instructions. Pour la seconde fois de la matinée, il passa à deux doigts de la mort. Son engin rebondit comme une balle de caoutchouc, de gradin en gradin, emporté par les vagues en tournoyant. Que Michael s'en soit sorti vivant et son engin en état de marche prouve éloquemment l'incroyable résistance de nos appareils et la remarquable aptitude du principe des aéroglisseurs à franchir des rapides. Nous nous en doutions depuis longtemps, mais maintenant nous pouvions en être sûrs. Les engins dont nous disposions étaient quelque chose de plus que des aéroglisseurs. Leur forme, associée à une coque pneumatique, faisait d'eux de véritables machines à rebondir, des ballons capables d'encaisser des chocs terribles. Ayant enfin réparé pour la seconde fois mon véhicule, je partis rejoindre Michael. Ensemble, nous descendîmes la partie la plus basse de la rivière qui nous était maintenant familière. Deux petits incidents seulement marquèrent ce trajet, incidents dont nous ne devions pas tout de suite comprendre la véritable signification. Tandis que j'avançais sur une eau sombre relativement calme, je vis soudain jaillir sur ma droite, tout contre mon engin, une grande gerbe d'eau en même temps que je remarquais des écailles blanchâtres et rectangulaires qui me firent croire à un poisson de 2 mètres de long environ. Quand Michael, qui était derrière moi, passa au même endroit, son moteur ascensionnel cala. Comme il ne pouvait pas le faire redémarrer sur place, il se jeta à l'eau et nagea jusqu'au rivage. Le deuxième incident eut lieu un peu plus loin, lorsque la courroie de mon hélice de poussée se mit à glisser. C'était juste avant le confluent du Marchandi. Je gagnais une petite plage à l'aplomb du village de Davega, et là, tantôt travaillant, tantôt me baignant pour me rafraîchir, je fis ma réparation en une demi-heure. Nous fûmes soulagés de nous retrouver tous sains et saufs au camp peu de temps après. Nous fêtâmes l'événement par un bon repas.
« Dites donc, nous dit Bob, savez-vous que la rivière est infestée de crocodiles ?»
Je lançai un coup d'œil à Michael et nous éclatâmes de rire. C'était une plaisanterie facile, mais pas très drôle. Puis, je me dis, des crocodiles? Pourquoi pas? Mais je n'y croyais pas.
Je peux vous en montrer un quand vous voulez, insista Bob.
Oh, toi et ton amour australien. Nous étions trop fatigués et trop excités par notre voyage pour nous intéresser à autre chose cet après-midi-là.
Bob insistait pourtant.
Il y en a un, énorme, de l'autre côté de la rivière, juste en dessous de Davega. Il y a 30 ans qu'il vit là. Si vous ne me croyez pas, on peut y aller.
Bob ne blaguait pas. Nous apprîmes même bientôt que nous avions installé notre camp au cœur d'un véritable élevage de crocodiles. Entre Davega et Narianga, à 12 kilomètres en amont, les gens du pays avaient compté plus de 50 de ces sauriens, des mougards géants et des carials au nez long qui peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de long. Ces derniers sont beaucoup plus longs que leurs cousins d'Amérique et d'Afrique. Nous allâmes voir la bête qu'on avait présentée à Bob. À ma grande horreur, je constatai qu'elle dormait à 3 mètres de l'endroit où, pieds nus un peu plus tôt, j'avais passé une demi-heure à me baigner et à travailler sur mon engin. Tout s'organisait dans ma tête. Mon poisson était sans doute le ventre d'un crocodile qui allait sauter pour m'éviter. Michael se mit à évoquer, en balbutiant, les heures que nous avions passées à nous baigner, à faire trempette au bord de la rivière pour prendre le frais ou à nous reposer sur les rives. Si vous devez dormir sur place ou à proximité d'une plage, devait plus tard nous expliquer un ami expert en crocodile, il faut vous entourer de piquets réunis par une corde à laquelle vous attachez des boîtes de conserve, le bruit les fait fuir. Il nous avait regardés avec étonnement avant d'ajouter « Mais enfin, où diable pensez-vous être ?» Cet ami, pourtant, n'était pas un froussard. À Paris, il vivait avec un boa et avait capturé de nombreux reptiles au Népal. « Oui, conclut-il, vous êtes complètement fou et vous avez une sacrée chance. » De la chance, oui, nous en avions eu. Mais on ne peut pas dire que nous étions fous. Comment aurions-nous pu être conscients de ce que nous n'avions pas vu? Les crocodiles et les troncs d'arbres se ressemblent beaucoup. Et nous avions aperçu beaucoup de troncs d'arbres sur les plages en passant sur la rivière. Maintenant que Bob nous avait montré notre premier crocodile, nous avions l'impression d'en voir partout. Cette obsession gâtait nos médiades sans parler de la manie qu'avait Michael de plonger par-dessus bord pour un oui ou pour un non. Nous feuilletâmes d'une main émue un livre de Michael qui traitait des reptiles et sauriens indiens. Nous vîmes sur le papier le portrait du monstre qui ronflait au soleil près de notre camp. Notre fidèle zoologue, vexé d'avoir été pris à défaut, nous lut les passages les plus éloquents sur les mœurs de nos nouveaux amis. « Le mongar est très rapide. Il peut courir beaucoup plus vite que n'importe quel être humain. » Cette remarque nous fit beaucoup rire. Nous savions très bien que n'importe quel être humain court beaucoup plus vite qu'il est normal quand il y a un crocodile à ses trousses. Nous apprîmes aussi que les mugars peuvent vivre 60 ans et même 100. Cela explique pourquoi la plupart des monstres qui nous entouraient avaient été baptisés par les villageois. Les vieux crocodiles sont des animaux pleins de sagesse qui ont leur petite habitude. Ils vivent toujours au même endroit, au centre d'un territoire bien délimité sur lequel ils règnent en maître. Leurs lieux de repos sont facilement reconnaissables aux empreintes qu'ils laissent dans le sable et qui ressemblent à celles des engins chenillés. Sur la plage où je m'étais arrêté, juste avant d'atteindre le camp, j'avais vu ces empreintes mêlées aux miennes. Aux heures les plus chaudes de la journée, ils restent immobiles dans l'eau, face au courant, les yeux au ras de la surface, ou plus exactement, à moitié submergés, attentifs au monde de l'air et au monde de l'eau. Leur nage rapide et puissante leur permet d'attraper le plus gros poisson. Les gharials sont particulièrement bien équipés pour ce genre d'activité. Contrairement aux crocodiles à tête plate, les plus communs, ils ont un long museau en forme de bec armé de dents saillantes qui les font un peu ressembler à de gigantesques poissons-scies. Si personne n'avait inventé le mot crocodile, il faudrait les baptiser dragons. Ces sauriens géants sont les plus grands du monde et, sans aucun doute, les plus prodigieuses machines à donner la chair de poule qui puisse exister. Leur goût prononcé pour le poisson ne leur fait pas dédaigner les chiens et ils n'hésitent pas à donner un coup de dent à tout ce qui bouge. Filles de Ganga, les crocodiles sont considérés comme des animaux sacrés pour la plupart des hindous. Autrefois, de malheureuses vierges étaient jetées en pâture à ces monstres du haut des temples qui bordaient les rives du Hougli, là où se trouve aujourd'hui Calcutta.
« Jusqu'ici, dit-il, nous pensions avoir eu des ennuis mécaniques, mais attendez les gars un peu que ces bêtes nous donnent un coup de dent à nos jupes. »
Nos aéroglisseurs, après tout, ne mesuraient que 2,50 mètres, le tiers de la longueur d'un gharial de bonne taille.